Bienvenue à la French Connection, épisode un peu spécial parce que cette fois-ci, j'enregistre avec un invité qui est un peu spécial, Marie-Ève, qui est une précieuse collaboratrice pour l'organisation d'événements de sécurité dans lequel j'ai l'étrange idée de mettre en place. Donc, Marie-Ève.
Bonjour tout le monde, première expérience de podcast pour moi. On verra bien qu'est-ce que ça va donner.
Ça risque de te faire intéressant. De toute façon, ça ne mord pas, ça ne va pas bien mal, ça va faire un podcast. Commençons avec les shameless plugs. Le 10 décembre, Isaka Québec organise la journée sur l'info nuagique. Journée, dans le fond, qui tombe à point puisque l'appareil gouvernemental québécois s'oriente énormément vers l'info nuagique. Donc, c'est très important que les gens s'informent, mais s'informent surtout sur l'élément de sécurité associé à l'info nuagique puisque c'est le principal problème associé avec cet élément-là, puisque ça change complètement le paradigme de sécurité face à des infrastructures qui sont on-prem ou sur site à ce moment-là. Au courant du mois de décembre, Québec Sec Hackfest va organiser sa bière de Noël. Donc, c'est une occasion pour les gens de se rencontrer, de parler de façon sympathique et désinvolte autour d'une bière. Et finalement, le 20 avril.
Le Sécure revient pour sa deuxième édition. Et pour le Cyber Monday, nous avons une annonce spéciale. Nous allons présenter notre premier grand conférencier. Puis, nous allons également avoir des rabais sur les billets. Donc, restez à l'affût de nos réseaux sociaux pour les détails.
Super. Et commençons avec les vraies nouvelles. Et dépasser les HMS blogs. La première, c'est la police de New York a dû tout fermer son réseau de Live Scan, qui est essentiellement le réseau qui contient les empreintes digitales, puisque un sous-contracteur est arrivé pour installer un bidule dans leur réseau. Et ce bidule contient un ordinateur qui malheureusement est infecté avec un rançon logiciel et tous les équipements ont été, semblerait, affectés par ce rançon logiciel-là. Et par mesure préventive, la police de New York a décidé de tout fermer son réseau pour justement limiter les problèmes associés à ce genre de virus-là. Puisqu'on a vu dans les dernières semaines, les derniers mois, plusieurs organisations tomber, donc c'est un geste préventif fort, fort utile à ce moment-là.
C'est intéressant de voir une grande organisation comme ça être aussi vulnérable à l'erreur humaine, mais peu importe quelle barrière qu'on se met, quelle procédure qu'on peut mettre en place, l'être humain est toujours là.
En plein ça, puis c'est essentiellement probablement le fait que ce contracteur-là n'a peut-être pas respecté les règles ou il n'avait pas été clairement identifié qu'il y avait un équipement informatique qui était lié à l'installation du dit bidule qui devait mettre en place. C'est en même temps un sévère rappel qu'il faut malgré tout respecter les procédures en place. Nouvelle suivante, une attaque sur les services informatiques pour les résidences de personnes âgées aux États-Unis, qui cette rançon-là demande 14 millions de dollars. C'est quand même un montant assez substantiel. Et ce rançon logiciel-là a essentiellement attaqué le fournisseur de services qui dessert l'ensemble des résidences, donc où toutes les informations de santé sont stockées et permettent de donner une prestation de service adéquate à toutes ces personnes-là. Ce qui est arrivé essentiellement, c'est un rançon logiciel, donc leur système est tombé et la nouvelle qui est disponible semblerait que c'est tombé sévèrement, c'est-à-dire que tous leurs services sont rendus inaccessibles maintenant. Donc, ça rend la situation problématique, surtout que ça met des vies humaines en danger dans ce cas-ci. Là. Fait que c'est moins le fun. Là.
C'est impressionnant à voir. Là. D'un point de vue extérieur, on est habitué de voir le chantage, des rançons, qu'est-ce qui est monétaire, mais quand que là, on se rend compte que c'est des gens qui peuvent attendre après leur prescription, des médicaments qui sont question de survie pour eux, puis que là, les vies humaines peuvent être en jeu, ça devient un peu troublant.
C'est effectivement très troublant, puis c'est justement parce que là, on a des vies, des vraies vies humaines. Pas juste des personnes dans des bureaux qui sont froissées par ce qui se passe, mais vraiment des gens que leur médication est en jeu parce qu'ils ne peuvent peut-être pas la recevoir dans les délais nécessaires à leur santé, les soins qui sont associés avec leurs besoins spécifiques. Donc, c'est un peu moche. Puis de ce qu'on peut en déduire de l'attaque en question, parce qu'elle est vraiment virulente, elle a vraiment tout mis à terre. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que, comme c'est une compagnie qui justement qui a des vies humaines associées, se soit obligé de se sente obligé de devoir payer ce genre de rançon-là, ce qui est doublement plus moche. Là. Quand il y a des vies humaines qui sont à l'autre bout du fil, puis c'est qu'un peu les malveillants sont de moins en moins regardants pour aller chercher de l'argent où ils peuvent. Là. C'est moche.
Effectivement.
C'est moche. D'avoir ce genre de choses-là, puis pour embarquer peut-être un peu plus technique, mais là, c'est tout ce qui a été touché, c'est toute la variante actuelle des Motet, Tricot, Triuc qui sont rentrés dans leurs infrastructures. Ce qui est intéressant pour avoir un peu côtoyé ce trio infernal-là, d'habitude, c'est non dirigé ce qu'ils mettent, donc justement, la rançon est mettons, peut-être pas aléatoire, là, mais d'un niveau plus raisonnable. Puis là, ils ont l'air d'être vraiment avoir été ciblés en plus. Donc, ça vient changer un peu la dynamique dans laquelle on vit où maintenant on a des malveillants qui ne sont pas juste ramassés la cible la plus facile, mais vont vraiment aller jusqu'à cibler des cibles avec un potentiel d'argent qui est fort plus intéressant. En tout cas, plus intéressant, là, c'est moche parce que là, c'est des personnes qui sont en jeu, mais on en avait parlé avec Damien sur les réseaux des dentistes aux États-Unis qui ont de l'argent et on n'est pas nécessairement dans une situation qui met des vies humaines en jeu et il était spécifiquement ciblé parce que les malveillants savaient que ces gens-là étaient plus propices à payer rapidement et sans embûche versus à d'autres types de cibles à ça. Oui, oui, Marie-Ève.
J'acquiesce.
Et passons à la nouvelle suivante. Là, les autorités ou la police auraient arrêté les membres du groupe qui ont été qui ont ciblé le président de Twitter dans une attaque dans laquelle il aurait utilisé du sim swapping pour réussir à envoyer des tweets en son nom. Donc ce groupe-là a été arrêté, ce qui est quand même une bonne chose. Puis je pense que Marie-Vé est
bien d'accord. Effectivement, on ne laisse pas courir des gens comme ça si on peut les arrêter et les traduire en juste.
Effectivement, puis ça envoie un message de dissuasion aux gens qui aimeraient le faire dans des actes comme ça parce que ils sont attrapés maintenant. On n'est plus dans le Far West. Je pense que les gens n'ont pas encore tout à fait compris que on n'est plus au début des années 2000 où on pouvait pouvoir espérer s'en sortir plus facilement et ne pas se faire attraper par la justice, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant, même quand on a vu comme la personne de Silk Road qui s'est fait attraper ou d'autres grands cyber malfaiteurs qui ont été interceptés. Donc, c'est plus aussi facile maintenant. Les forces de police sont correctement outillées. C'est une excellente chose. Puis, ça envoie un message très clair de ce côté-là. Et en même temps, cette attaque-là a amené Twitter à revoir un certain nombre de processus de sécurité, dont l'abandon du SMS comme deuxième facteur d'authentification, ce qui est une très bonne chose, et même de pouvoir permettre de retirer le numéro de téléphone de notre compte Twitter. C'est aussi une excellente chose.
Personnellement, je l'ai déjà fait, puis j'ai bien été éduqué par mes collègues du Secure, donc j'utilise l'application à deux facteurs là, pour me connecter sur mes différents appareils en toute bonne personne éveillée.
Oui, puis je pense que tu avais été il y a déjà longtemps quand même été attaqué par un de tes comptes de médias sociaux qui avait été un peu mal utilisé.
Ça fait longtemps, c'était au début de mon université quand j'étais jeune et fringante. Mais oui, j'avais été hacké sur mon compte Facebook. Là, il y a quelqu'un qui avait pris contrôle puis avait fait une publication comme je pense qu'il avait juste dit bravo, tu t'es fait hacker. Là, je pense que j'ai été chanceuse, c'était peut-être juste un joker ou un clown, là. Ils étaient chanteuses, ils m'ont juste dit « Hey yo, fais attention », puis après ça, j'ai essayé de renforcer la sécurité de mes mots de passe et de tous mes autres trucs en ligne en même temps.
Ce qui est une très bonne chose, puis c'est un sévère rappel pour tout le monde qu'on devrait avoir des mots de passe robustes partout et avoir une authentification de deux facteurs qui est quand même d'une très bonne qualité. Le SMS n'étant plus considéré comme étant un élément de bonne sécurité. Et c'est cela. essentiellement. Surtout que des plateformes comme Twitter qui sont largement utilisées, puis dans lesquelles on peut impersonnifier quelqu'un d'autre, c'est un peu dangereux de laisser ça vaguer librement comme ça. Nouvelle suivante, le FISMA a augmenté un peu, ou mis à jour ses lignes directrices pour les agences civiles, principalement, uniquement, parce que j'ai l'impression que ça ne couvre que ça. Essentiellement, c'est des obligations de reddition de compte beaucoup plus sévères, rigoureuses, on va dire, qui va exiger un certain nombre de choses, un nombre d'agences à devoir faire des rapports de sécurité, de l'état de la sécurité à tous les quarts, et les agences un peu de moins grande importance à toutes les deux fois par année, ce qui inclut, entre autres, des tests de déballage de vulnérabilité, une communication rapide et immédiate des incidents au Homeland, entre autres, pour être capable de centraliser ça, et au Congrès ensuite. Donc, ça vient baliser davantage les choses, même ça exige que le DHS dispose de l'adresse IP pour être autorisé à faire des balayages réguliers, j'imagine, de tout ce qui est face à Internet. L'article lui-même ne parle pas d'éléments intérieurs très, très grands. Ce serait bien de savoir qu'ils font le même genre d'exercice avec autant de diligence dans l'intérieur de l'organisation pour s'assurer que tout soit bien protégé aussi à l'intérieur et en info nuagique, puisque c'est aussi une porte plus intéressante. Je sais que le gouvernement américain est poussé par la même vague que le gouvernement québécois à vouloir augmenter sa présence dans l'info nuagique. Donc, il y a des risques nouveaux et des éléments importants à prendre en compte. Ce qui me chatouille un peu, puis là, je vais te faire probablement de notre collaborateur Steve, ça exige que le plus haut dirigeant de l'information de cette organisation-là soit sa clearance top secret pour accéder à toute l'information partagée interagence, qui est essentiellement des tactiques techniques et procédures utilisées par les acteurs malicieux. Dans un contexte où le partage d'informations de façon large est favorable à une meilleure protection de tout le monde, de limiter l'accès à cette information-là qu'à des gens avec des codes de sécurité, c'est un peu achalant, mais je ne connais pas exactement le contenu, puis j'ose imaginer qu'ils mettent ces limitations-là, puisqu'il doit y avoir des secrets d'État ou des mesures de protection civile et militaire qui doivent être en jeu dans ce genre de choses-là. Donc, ça serait peut-être à creuser comme volet, mais si ça vient limiter le partage d'informations, surtout avec sur l'ensemble de l'ensemble des acteurs en cybersécurité, je trouve qu'on ne gagne pas nécessairement ce degré de secret-là. Et, oui?
Dans tous les cas, d'un point de vue extérieur au domaine, c'est toujours rassurant de voir des choses comme ça, des politiques mises en place pour favoriser la structure et tout ça. Puis si ça fait juste inciter tout le monde à mieux documenter ce qu'ils font, rechercher, chercher les causes, de comparer les solutions pour voir quelle est la meilleure, ben, ça reste quand même quelque chose de positif là, de mon point de vue.
Effectivement. C'est sûr que toi, t'as pas, par expérience, tu n'as pas déjà connu de grandes entreprises. Tout ce volet-là est un peu plus obscur, mais d'un point de vue plus PME, tu es exposé avec nous depuis 3 ans. Comment tu trouves ça, l'absence ou le vide, j'imagine, qu'il doit y avoir au niveau des préoccupations par rapport à ça?
C'est particulier parce que c'est surtout beaucoup de manque d'informations. C'est comme une entité externe qu'on ne comprend pas trop c'est quoi la sécurité informatique. On sait qu'on peut se faire hacker, ça peut être dangereux, mais ça reste quand même très, très vague et très, très abstrait. Donc, de comprendre que oui, on peut prendre des actions concrètes pour sécuriser nos informations, ça reste quand même un petit peu plus difficile à comprendre. Inaccessible aussi, en PME, on a des ressources limitées aussi. Donc, temps et argent, tout ça est plus limité. On ne peut pas tout faire. On peut en avoir juste 24 heures dans une journée pour tout le monde. Donc, ça aussi, ça reste quand même un enjeu. Par contre, ça se parle plus. Je sens qu'il y en a un petit peu plus de sensibilisation. Par contre, on pourrait toujours être mieux.
Ouais, c'est sûr qu'on peut toujours être mieux. Même la grande entreprise, on pourrait déjà être beaucoup mieux. Là, mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, puisque à certains égards, les PME, on doit peut-être voir ça un peu comme monsieur et madame tout le monde au niveau de la cybersécurité qui ont à peu près le même niveau, le même nombre de temps, le même peut-être ultimement, le même nombre d'intérêt à se préoccuper de ça. Fait que c'est peut-être cibler les la sensibilisation comme si on ciblait monsieur et madame tout le monde essentiellement. Là. En tout cas, de ton expérience, ça fait du sens ce que je dis?
Oui, totalement. À collaborer avec vous autres depuis, pour le Sécure depuis 2 ans, j'ai déjà développé des réflexes ou des œils plus. Mon œil est beaucoup plus ouvert qu'il l'était. Donc là, je vois beaucoup plus les courriels de spam que je reçois, je les spot plus facilement. Il y en a qui sont très bien faits, là, justement, on en parlait plutôt. Il y en a qui sont très bien faits. Donc, monsieur, madame, tout le monde, c'est sûr qu'il aurait cliqué sur le lien. Moi, j'ai eu la brillante idée de ne pas cliquer dessus, mais bref, ça reste un petit.
Mais effectivement, de toute façon, les dernières campagnes sont assez bien faites. Là. La dernière qui, moi, m'est tombée dans ma boîte à moi, c'est disant que mon compte Netflix a été suspendu et que je devais remettre mes nouvelles informations de paiement parce que mon paiement avait été refusé. Donc, c'était très amusant comme approche et c'est particulièrement bien fait. Le texte n'est pas trop menaçant, mais juste assez. Donc, il y a quand même, on voit un raffinement assez grand, puis j'imagine que ceux qui sont pas sensibilisés à ça vont tomber facilement dans le piège. Donc, c'est très, très inquiétant. Donc, on va voir quand il va y avoir des agences. Je sais qu'au fédéral, le CCC le fait de faire la promotion de la cybersécurité, mais je ne sais pas si le message se rend jusqu'aux citoyens et aux PME, mais tu vois, de ta part, de ton expérience, ça ne semble pas s'être rendu. Sauf par toi?
Ben, c'est sûr, c'est pas. Ça reste quand même un domaine qui n'est pas énormément connu là, pour le citoyen moyen. Là. C'est sûr que les plus qu'on a de données à protéger, plus que ça devient un grand enjeu, moins qu'on en a, moins qu'on peut pas. C'est quelque chose qu'on y accorde beaucoup de temps. Ça reste un peu vague comme concept encore un peu.
Effectivement. Puis ben, la question qui est au Québec et finalement le jour zéro, est-ce que l'événement de Desjardins toute la communication qui est faite autour de la fuite chez Desjardins a eu un impact dans ton entourage et chez ton employeur ou ça a été relativement faible comme effet?
Dans mon entourage personnel, j'ai eu des gens qui m'en ont parlé, qui se sont inquiétés, mais ils m'ont pas dit « Ah, qu'est-ce que t'en penses? » Tout ça. Ils ont dit « Hey, c'est passé telle chose, mais regarde dans tes courriels, tu vas avoir eu un courriel d'Equifax ou quoi que ce soit. » Tu sais, les gens se sont quand même sentis rassurés rapidement, mais je pense que ça les a beaucoup éveillés sur le risque de leurs données. Donc, tu sais, c'est sûr que quand une grosse entreprise comme Desjardins, il y a ça qui arrive, ils disent « Ok, c'est vrai, est-ce que je dois me questionner? » Ils ont commencé à se questionner un petit peu plus sur où ce qu'ils mettaient leurs données et pourquoi. Quelque chose avant, ils faisaient pas nécessairement. Ça a quand même amené ça qui peut être très bien.
C'est très intéressant. J'ai hâte de voir. De toute façon, on va voir pendant les mois et les années qui suivent les faits de ça. Et enchaînant avec la dernière nouvelle, qui finalement, c'est le département de la défense américaine qui vient de publier le second draft d'une certification de maturité en cybersécurité dans laquelle vont obliger leurs sous-traitants à se conformer. C'est une approche très intéressante d'utiliser le levier contractuel pour obliger les gens à se conformer à un certain niveau de sécurité, surtout sachant que le département de la défense et tous ses contracteurs ont connu certaines avaries de sécurité dans les derniers mois et dernières années, dans lesquelles certains cas étaient un peu auraient pu être facilement évités avec une bonne configuration de base, une bonne hygiène de sécurité de base. Donc, ce genre de choses-là vont minimalement relever le niveau de l'eau, un peu monter le niveau de l'eau, ce qui fait que tout le monde va devoir maintenant se conformer à un niveau un peu plus élevé de sécurité au niveau de ces choses-là. Donc, on va progressivement se propager plus dans l'environnement civil et finalement dans la société en général dans laquelle ces mesures et cette conscientisation de sécurité-là va se propager. Fait que c'est un très beau levier. Ça serait très agréable de voir ce même genre de levier utilisé dans le civil aux États-Unis et tant qu'à ça au Québec aussi, que des clauses contractuelles obligent les fournisseurs à avoir atteint un niveau de cybersécurité minimal par rapport à ce genre, une certification définie ou peut-être à ce qu'ils copient cette certification-là qui peut-être est un peu trop sévère pour commencer, mais quand même qui est un bon point de départ à ce moment-là. Ça complète les nouvelles pour cette fois-ci. Comment tu as trouvé ton première expérience en podcast?
C'est bien agréable. J'ai bien hâte de l'écouter.
Super. Ben, à l'épisode suivant. Merci.
Merci.